Shalom. Comment est-ce que le peuple d'Israël est-il apparu dans l'histoire? En effet, ce n'est pas depuis la création du monde que nous sommes présents sur Terre. Et donc, la question se pose de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment de l'histoire, la nation hébraïque est apparue, et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ce n'était pas nécessaire, et quelle est la fonction que cette nation remplit? Eh bien, on se rend compte que dans le livre de la Genèse, il est question tout d'abord de l'homme en tant qu'homme, Adam Harishon, le premier homme. Et ce premier homme, après sa chute, donne naissance à plusieurs lignées humaines, et que chaque lignée essaye de s'accaparer, si l'on veut, le rôle de leader, de celui qui va mener l'humanité à sa finalité. Et puis, on voit qu'il y a un échec, il y a le déluge, tel qu'il est raconté dans la Bible. Et puis après, il est question, c'est peut-être une parabole, mais enfin, il est question d'un événement qu'on appelle la tour de Babel. Dans la tour de Babel, il est question au départ d'une humanité totalement cosmopolite. Toute la terre ne parlait que le même langage, tous les hommes ne parlaient que des mêmes choses, et donc il y a eu une tentation, à un moment de l'histoire, de créer une humanité uniforme. La raison profonde de cette volonté était que c'était justement la division qui avait amené les conflits, qui avait amené les guerres entre les hommes, ce qui finalement a été la raison du déluge. La décadence morale entraînée par la violence entre les hommes a amené l'effacement presque total de l'humanité antique. Et donc il a fallu refonder. On peut dire que la préoccupation fondamentale, en tout cas selon la tradition orale, la préoccupation fondamentale des constructeurs de la tour de Babel était justement de créer une humanité unie, dans laquelle il n'y aurait plus de différence. Et comme il n'y aurait plus de différence, alors on pensait qu'il n'y aurait plus de violence. C'était ça, probablement, l'intention de l'auteur de la tour, qui, selon la tradition, était ni plus ni moins que le roi Nimrod, roi de Babylone. Eh bien, en fait, ce désir d'uniformité s'est révélé extrêmement nocif. Parce que si tout le monde sait la même chose, ça veut dire que tout homme est interchangeable avec un autre. Et donc, la valeur de la vie humaine, aussi bien au niveau propre qu'au niveau figuré, eh bien, cette valeur disparaît. Il y a un midrash, une tradition orale, qui nous raconte que lors de la construction de la tour, lorsqu'un homme en plein travail tombait de la tour et mourait, eh bien, personne n'y faisait attention. Tandis que si une brique venait à tomber de la tour, eh bien, tous s'asseyaient au sol et pleuraient et disaient « Mais quand est-ce qu'une autre brique va remplacer celle qui est tombée. » On voit donc qu'il est arrivé une situation dans laquelle le projet humain avec un grand H a remplacé les hommes avec un petit H. Et donc c'est la raison pour laquelle cette uniformité s'est révélée nocive et donc disqualifiée par la Providence. En effet, on voit que Dieu intervient dans l'histoire de la tour justement pour séparer les hommes les uns des autres, pour qu'il y ait diversité, pour que soit préservée la richesse des identités humaines. Mais, à nouveau, dans ces diversités, il y a danger que la violence revienne. Et donc, il a fallu pour cela libérer l'humanité de cet engrenage infernal dans lequel on est soit dans une uniformité totalement laminifiante et, d'autre part, une diversité qui entraîne la violence. Il faut créer pour cela, entre l'uniformité et la diversité, un troisième terme, ce qu'on appelle l'unité, en hébreu, ardout. C'est en fait le rôle d'Abraham qui apparaît dans le livre de la Genèse, dans le livre de Béréchit, sur l'arrière-plan de la tour de Babel. En effet, que fait Abraham? Abraham ne crée pas une nation différente des autres nations. Il crée, en plus des 70 nations, qui sont la diversité de l'identité humaine, il va en créer une 71e qui n'aura pas de caractère propre, qui n'aura pour seule finalité que d'être un lieu de rencontre pour l'ensemble des peuples de l'humanité. Alors, il y a une petite phrase en hébreu qu'on a l'habitude de mal traduire, qui est « Venivrechu becha kol mishporot ha'adama », qu'on traduit en général par « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre ». La traduction est légitime, mais si on rentre plus dans le détail, dans une lecture attentive de l'hébreu, on se rend compte qu'il s'agit là-bas de « Toutes les nations seront greffées sur toi ». C'est le sens profond du mot « Venivrechu » qui représente l'opération du marcottage, bien connue par les viticulteurs, dans lequel on réunit plusieurs vignes en une seule vigne, pour donner naissance à des nouveaux cèpes. Et donc on peut dire que le peuple d'Israël a pour vocation de réaliser l'humanité, l'unité de l'humanité, de sorte que chaque nation garde sa spécificité, chaque civilisation, chaque société garde son caractère propre, et de sorte que, mais malgré tout, il y a un foyer autour duquel tous puissent se réunir. Ce foyer, c'est Israël qui se propose d'en avoir la vocation. C'est Israël, on pourrait dire, une nation sans couleur, dans laquelle toutes les 70 couleurs des nations se retrouvent mélangées. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard, c'est certainement pas un hasard, si le noyau fondamental du peuple d'Israël a été formé de 70 âmes qui sont descendues en Égypte en relation directe avec les 70 nations de l'humanité. D'ailleurs, de nos jours aussi, nous voyons qu'il y a 70 manières différentes d'être hébreu parce que chacune des communautés d'Israël est venue d'une autre nation. Il y a les originaires de France, comme ceux qui sont originaires d'Éthiopie ou originaires des États-Unis, de sorte qu'il y a une sorte de rassemblement des exilés en Eretz Israël, qui n'est pas simplement un rassemblement des exilés hébraïques, mais un rassemblement des exils de toute la terre. C'est-à-dire que si on considère que toutes les nations de la terre sont en exil de l'identité humaine d'origine, du cosmopolitisme originel, eh bien il y a une manière de restituer l'identité du premier homme, l'identité adamique à travers Eretz Israël, et donc on peut dire que aujourd'hui commence à s'accomplir véritablement le rôle du peuple juif par rapport à l'humanité. En fait, on se rend compte que le peuple d'Israël est particulier en ce sens qu'il est, il a trois patriarches et non pas un. Nous ne sommes pas seulement les fils d'Abraham ou les fils d'Isaac ou les fils de Jacob. Nous sommes les fils des trois à la fois. C'est parce que s'il n'y avait que Abraham pour ancêtre d'Israël, eh bien ça aurait donné une sorte de religion entièrement concentrée sur l'amour. Or nous connaissons une religion de prétention monothéiste qui a pris l'amour comme étant la valeur exclusive. Et s'il n'y avait eu que Isaac, eh bien ça aurait donné une religion de type monothéiste qui n'aurait voulu que la rigueur, la justice. Et nous connaissons des religions de ce genre, qui, en tout cas, se prétendent être une religion de rigueur. Et s'il n'y avait eu que Jacob, eh bien, ça aurait donné cette forme du judaïsme que nous connaissons comme étant le judaïsme exilique, la dispersion parmi les nations, sans qu'il y ait de projet national. Pour vraiment réaliser l'unité des valeurs, il faut qu'il y ait à la fois Abraham, Isaac et Jacob, qui soient à l'origine de la triple identité d'Israël, qui va permettre la réalisation de l'unité des valeurs, et ainsi, à travers l'histoire, réussir l'histoire tout entière. Shalom.